Le débat du jour. Loïc Bussière.
And when it comes to guns,
il y a trop d'armes à feu, trop d'armes dans nos rues, dans nos foyers, dans nos quartiers.
Si vous regardez les villes où il y a le plus de fusillades, Chicago par exemple, c'est la ville américaine la plus stricte en matière d'armes à feu. Et il n'y a que des problèmes.
Les chiffres sont ceux du Washington Post. Il y aurait aux États-Unis plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, 357 millions contre 318. Une donnée que n'ignore pas Donald Trump ou Hillary Clinton que l'on vient d'entendre, tout comme les deux candidats à la Maison-Blanche n'ignorent pas l'attachement de leur pays à son sacro-saint deuxième amendement qui autorise la libre circulation des armes. Un droit défendu bec et ongle par l'influente NRA qui tient jusqu'à dimanche sa convention annuelle. Alors peut-on être candidat à la présidence américaine et s'opposer à la libre circulation des armes à feu? C'est le débat de ce soir. Bienvenue.
Never fight if you can avoid it.
Ne jamais se battre quand on peut l'éviter. Mais quand il faut le faire, perdre est inenvisageable. Quand rien de moins que la liberté est en danger, nous nous battons. Nous sommes des millions de gens comme vous. Nous sommes les gardiens du Second Amendement, les défenseurs du droit à porter une arme. La sécurité, l'éducation sont nos missions. Et nous répondons à l'appel de la liberté, celle d'un héritage vital. Et nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour. Nous sommes la NRA. Vous êtes la NRA. And the NRA is
you. Bonsoir Constance Borde. Vous êtes la vice-présidente de Démocrate Abroad France. Vous représentez donc le Parti démocrate américain dans l'Hexagone. Bonsoir Benoît Mourachol.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'ONG ACER, Action Sécurité Éthique Républicaine. Vous êtes l'auteur plutôt du livre Quelles frontières pour les armes. Je suppose que vous connaissez, que vous avez déjà entendu ce que l'on vient justement d'entendre, ce clip de présentation de la NRA.
Oui, on n'entend que ça.
Voilà, donc clip de présentation que l'on trouve sur le site de cette association, la National Rifle Association, qui fait la promotion donc des armes à feu aux États-Unis, qui tient ce week-end à Louisville, dans le Kentucky précisément, son congrès annuel congrès. Et je me tourne vers vous, Constance Borde, qui a une résonance toute particulière en cette année d'élection présidentielle. Est-ce que on peut dire que la NRA s'impose dans le débat présidentiel plus qu'elle ne s'y invite d'ailleurs?
Tout à fait, mais à mon avis, il y a quelque chose de plus profond encore, parce qu'il n'y a que des contradictions dans cette discussion. Et Dieu sait, ça fait des années, les Américains discutent ce problème de deuxième amendement et le port des armes. Mais il y a des contradictions, parce que même au sein de la NRA, il y a énormément de gens, je dirais plus de 50% des gens de NRA qui cherchent une solution, mais on n'arrive jamais à le trouver. Donc, je me demande si ce n'est pas seulement la NRA, mais c'est aussi les lobbies de ceux qui vendent les armes, qui utilisent la NRA pour continuer profiter, il faut le dire, sur le vente des armes aux États-Unis et ailleurs, partout dans le monde.
Benoît Mourachol, ceux qui parlent le plus fort, on peut dire, au sein de la NRA, ce sont ceux qui ont une interprétation, on peut dire, très personnelle de ce deuxième amendement?
Oui, parce que dans le deuxième amendement, il est fait mention de milices. Toute milice armée a droit de porter des armes. Or, les individus ne sont pas la milice. On pourrait faire un équivalent entre la milice et la garde nationale aujourd'hui. Donc, le deuxième amendement dit toutes les individus investis dans la garde nationale ont le droit de porter les armes. C'est pas du tout les individus personnels. Mais ce qui est la force de la NRA aujourd'hui, c'est que ils ont réussi à faire changer ce deuxième amendement dans l'esprit de beaucoup d'États-Unis, dans l'esprit des journalistes qui l'interprètent tous comme le droit de porter les armes. Et puis, en plus de ça, ils ont réussi à mettre dans la tête de nombreux États-Uniens le fait qu'ils ont un pouvoir de faire élire ou ne pas faire élire les politiques. Ce qui n'est pas vrai quand on regarde l'élection de Clinton, par exemple. Clinton a fait passer une loi sur l'interdiction des fusils d'assaut en 1994. Il est élu. Gore était absolument opposé à la vente libre des armes. Bon, il n'a pas été élu parce qu'il y a eu des manipulations, mais il a été élu. Donc, on a là-dessus, et je pense que la NRA est très forte là-dessus, c'est qu'elle a réussi à créer un mythe de sa force et de son poids politique dans ce pays.
Oui, oui, en fait, la NRA a réussi à sortir le mot « droit » plutôt que armes. Et puis, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont très peu de gouvernement, des impositions du gouvernement. Vous savez bien qu'aux États-Unis, la liberté individuelle est quelque chose de profondément importante. Pour nous tous, d'ailleurs, même pour les gens comme moi, les démocrates et tout, on ne veut pas avoir nos libertés menacées. Mais ce n'est pas une question de droit ici, c'est une question de porter des armes et on ne va pas plus loin que ça dans la discussion.
Alors ce deuxième amendement, il faut le rappeler, hein, il est vieux de plus de 2 siècles, oui. Tout de même. La NRA également, ce n'est pas une institution qui est née d'hier, elle tient sa 145e convention annuelle, donc jusqu'à dimanche, dans le Kentucky, convention alors qui se partage entre des rendez-vous grand public, hein, des concerts de musique country, des démonstrations de tir, et puis d'autres rendez-vous qui sont éminemment politiques, hein, des séminaires intitulés « Armez-vous face aux contre-vérités qui vont être avancées sur les armes durant l'élection ». Je parlais de s'imposer dans le débat à l'instant. Il y a cette volonté manifeste de peser.
Oui, c'est ça que je veux dire quand je parle des contradictions, de armer plus de monde justement pour pouvoir désarmer des gens ou pour protéger les gens. C'est absolument, ça dépasse la logique. Ce n'est pas en donnant des armes aux gens pour aller à l'école, pour se protéger ou que les gens peuvent porter des armes chez eux dans le cas où il y en est un dans sa liberté. C'est totalement contradictoire à la baisse de violence. C'est certain que ça va augmenter la violence.
Alors, l'argument pourtant de la NRA, c'est que on n'arrête pas les méchants avec justement les mains libres. Il y a cette rhétorique du good guy contre le bad guy, donc les mauvais contre les gentils, qui est reprise d'ailleurs par Donald Trump, qui était à Louisville aujourd'hui.
Oui, parce qu'il a besoin d'une simplification. Ils ont besoin d'une simplification des situations. Mais si on parle, la première des libertés, c'est le droit à la vie. Depuis le 11 septembre 2001, eh bien, il y a eu plus de 460 000 personnes qui sont mortes à cause des armes à feu aux États-Unis. Plus de 460 000 personnes. C'est plus de 2 fois le nombre de soldats morts pendant la deuxième guerre, de soldats états-uniens morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a un vrai problème de sécurité qui se pose aux États-Unis, qu'ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, la culture politique fait qu'ils n'arrivent pas encore à faire face. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une montée en puissance d'ONG. Alors, il y a Brady Campaign qui existe depuis un moment, mais il y a aussi The Millennium March qui avait réuni 1 million de personnes à Washington en 2001. Il y a également Every Tone for Gun Safety. Il y a Mark Kelly and Gabby Guilford, qui avait été cette sénatrice qui avait été presque tuée lors d'un de ces meetings. Donc, petit à petit, il y a une société civile qui commence à prendre forme, qui commence à utiliser les mêmes techniques que la NRA, c'est-à-dire de faire face dans les élections aux sénateurs ou aux républicains, aux représentants, membres de la Chambre des représentants qui veulent être élus, en leur disant si vous n'êtes pas dur sur la question du contrôle des armes, à ce moment-là, nous, on va faire campagne contre vous. Donc là, il y a quelque chose à venir.
Hélas, ils sont toujours pas à l'auteur ni au niveau, hélas. Parce que le dernier vote qu'on a eu en congrès, qu'on était sûr de gagner, il y avait une majorité démocrate, il y avait une bataille extraordinaire menée par Nancy Pelosi et tout. On était sûr de le gagner, mais on l'a perdu quand même. Même avec une majorité démocrate. Donc, on essaie d'influencer le congrès, les sénateurs et tout, mais pour le moment, ce n'est toujours pas ça.
Alors pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Benoît Mouratchol, pour au-delà des chiffres, peut-être pour donner un ordre de grandeur qui est plus parlant pour nos auditeurs, les victimes d'armes à feu aux États-Unis sont plus nombreux et nettement plus nombreux que ceux d'actes de terrorisme. C'est ce que vous dites dans votre livre « Quelle frontière pour les armes ».
Oui, absolument. Quand on regarde d'ailleurs le terrible attentat terroriste du 11 septembre et au Pentagone, moi, il y a Boston, on arrive à 3000, plus de 3000 personnes. Là, il s'agit de 460 000 personnes. C'est absolument terrible. Par contre, il y a eu des milliards qui ont été dépensés pour la guerre au terrorisme qui ne donne pas véritablement ses fruits, parce qu'il y a beaucoup plus d'actes de terrorisme aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2001. Et la situation, la sécurité des citoyens états-uniens n'est toujours pas assurée sur cette question-là. Alors, je pense quand même que, comme vous le notiez, au niveau des sénateurs et de la Chambre des représentants, il y a encore une énorme difficulté à comprendre que c'est un enjeu politique majeur pour ce pays. Par contre, je crois que s'il y a ce travail au niveau de la société civile, aux États-Unis, parce que c'est surtout très très important que ça vienne de l'intérieur des États-Unis, comme c'est en train de commencer à se faire, là, je crois qu'il y a un espoir et que petit à petit, et je pense que là aussi, la révolution démographique que connaît ce pays va l'aider. Cette question va devenir de plus en plus, va revenir au centre de la politique très bientôt.
Alors pour revenir juste sur justement ce poids, cette influence fantasmée ou non de la NRA, il faut rappeler également que cette organisation note les candidats à la présidentielle avec des notes de A+ à F pour en gros les bons élèves, les ceux qui font la promotion des armes telles que la NRA l'entend, et puis des candidats comme Hillary Clinton d'ailleurs, qui a une très mauvaise note parce qu'elle est considérée justement comme une anti, enfin en tout cas comme une partisane d'une trop grande régulation des armes à feu.
Oui, tout à fait. Mais tous les lobbies font la même chose. Il n'y a pas que le gun lobby qui fait ça. Pour le choix pour les femmes, les candidats sont notés. Mais Hillary Clinton n'a pas...
Est mal noté, il est noté D dans la
le qui?
Sanders.
Mais Obama aussi, il était très mal noté.
C'est ça qui est étonnant, c'est que de la part des démocrates, les démocrates sont généralement très très mal notés. On l'a vu pendant les négociations sur le traité sur le commerce des armes. Les démocrates ont considéré, là encore, que la NRA avait une capacité de nuisance bien plus grande que ce qu'elle n'avait véritablement. Et en juillet 2012, quand elle dit non au traité, elle le fait, de mon analyse, parce qu'elle a peur que René utilise cela pour les élections de novembre de la même année.
Quand vous parlez du traité, c'est le traité sur le commerce des armes.
C'est très drôle ce que vous dites, parce que vous savez que Bernie Sanders, justement, il est très critiqué dans les démocrates parce qu'il a soutenu la loi soutenant le porte des armes.
Alors, parce que Bernie Sanders, c'est, on le rappelle, le concurrent donc de Hillary Clinton pour l'investiture démocrate.
Ah oui, mais vous dites
que... Cette loi que là, en fait, Bernie Sanders, mais c'est à mon avis une faute. Il a refusé que les producteurs et les vendeurs d'armes puissent être poursuivis par la justice.
C'est ça.
Et ça c'est un vrai problème. Vous avez raison.
Aujourd'hui, il y a un problème dans le présidentiel.
C'est-à-dire qu'on peut attaquer les industries du tabac parce qu'on est mort à cause du tabac, on ne peut pas attaquer les producteurs d'armes et les vendeurs d'armes parce qu'ils ont vendu leurs armes n'importe comment. Donc là, là aussi, mais ce débat-là, il ne peut être porté que par une mobilisation de la société civile états-unienne.
Pour ce qui est de ce qui représente justement la société civile des États-Unis, on évoquait à l'instant à la fois les positions d'Hillary Clinton, donc qui veut s'attaquer, qui dit vouloir s'attaquer en tout cas au lobby des armes, celle de Donald Trump qui lui veut mettre fin carrément aux gun-free zones, c'est-à-dire que c'est ces lieux où il est interdit, comme les églises par exemple ou les écoles, où il est interdit d'avoir des armes avec soi. Est-ce que ce débat, les démocrates pour une régulation, les républicains qui sont pour cette protection du Second Amendement telle que la NRA l'entend, est-ce que c'est pas un peu caricatural ?
Dans la société états-unienne, alors vous la connaissez mieux que moi, mais je pense que oui, ça l'est dans la société états-unienne, parce que 9 membres de la NRA sur 10 sont pour ce qu'ils appellent le background check, c'est-à-dire la régulation et le contrôle des acheteurs de ces armes.
Oui, mais Constance Borne, allez-y. Même un très bon démocrate, et s'il est d'un territoire des États-Unis où le porte des armes, où il y a des chasseurs et des pêcheurs, vous pouvez être sûr que cette personne va avoir beaucoup de mal à ne pas à soutenir une position un peu contre les armes. J'en connais des sénateurs et des représentantes et je demande toujours, mais comment est-ce que vous pouvez faire? Ils disent, mais vous ne comprenez pas qui sont notre constituency. On ne pourrait jamais dire.
Notre électorat, voilà.
Oui, notre électorat, ce n'est pas possible de prendre une position. Ils chassent. Ce sont des gens parfaitement honnêtes et il n'y a jamais de crime d'ailleurs dans notre local. Mais, et que voulez-vous qu'ils fassent?
C'est vraiment. L'éducation, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui.
Oui.
C'est ce que, à mon avis, Obama n'a pas compris. C'est que, dès son élection, il pouvait commencer des débats, l'éducation, et petit à petit arriver à cette loi. Mais on ne pouvait pas arriver à cette loi sans éducation. Il a essayé de se servir de ce massacre à l'école Sandy Hook pour passer une loi, mais c'était encore trop rapide. Et c'est là où il a, à mon avis, échoué, terriblement échoué.
Alors, on parlait à l'instant juste de promesses de campagne. On évoquait celle donc des candidats à la Maison-Blanche, donc à l'élection du mois de novembre. Est-ce que dans ce domaine, justement, de la libre circulation des armes, on reste dans les promesses? Est-ce qu'une fois que les candidats arrivent à la Maison-Blanche, ils ne se retrouvent pas, justement, face à une impasse en la matière? Quand on regarde Barack Obama, effectivement, il a beau prendre certaines positions contre les armes.
C'est là où je vois une contradiction. On aurait pu être sûr, quand Obama était élu, qu'on verrait un progrès. En plus de ça, il y avait des tueries qui est tombé un peu dans ses mains où il aurait pu convaincre. Il n'est pas arrivé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je pense que son discours est terriblement passionnant. Personne n'avait l'air aussi touché par ce problème que Barack Obama. Et pourtant, est-ce que c'est qu'il n'a pas la force nécessaire dans le Congrès? Je cherche moi-même à savoir pourquoi. En plus, il a eu un procureur qui était absolument contre ces tueries, il voulait punir des gens, même punir la police avec la violence. Et on est arrivé On n'est pas arrivé. Je dois dire honnêtement, à la déception de beaucoup de démocrates, nous ne sommes pas arrivés.
Benoît Mourachel, vous comprenez, vous, justement, cette routine que déplore Barack Obama, mais sans pouvoir avoir une emprise, justement, sur ce qui se passe?
D'abord, il y a un chiffre qui est un peu surprenant, qui est très surprenant, c'est que c'est le Parti démocrate qui a touché le plus d'argent des industries de l'armement. Et Hillary Clinton, qui est très, très largement en tête. Donc ça, c'est un des éléments, peut-être, un des paramètres. Le deuxième, pour Barack Obama, je crois, la compréhension que j'en ai, c'est que c'est aussi une question de courage politique. C'est-à-dire que il y a un moment où on met, effectivement, des choses sur la table, de façon à ce que on montre à quel point un sujet comme celui-là est important. Et il avait des arguments pour le nombre de morts aux États-Unis chaque année par arme à feu. Enfin, je le dis, là, c'est plus de 33 000. Donc, il avait de quoi le faire. Et en plus de ça, non seulement les morts, mais les blessés. Et en plus de ça, tous les gens qui vivent un traumatisme de la menace, les migrations. Il y a des gens qui migrent d'un quartier parce qu'il y a trop de violence. Donc ça, Obama a manqué de courage.
On suivra, en tout cas, justement, l'évolution des positions des candidats à la Maison-Blanche dans les mois à venir. L'élection, je le rappelle, c'est au mois de novembre. Peut-on être candidat, donc, à la présidentielle américaine et s'opposer à la libre circulation des armes? En tout cas, c'est impossible d'occulter cette question pour les candidats à la présidence. Merci, Constance Borde. Vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de Democrats Abroad France. Vous représentez le Parti démocrate américain pour les Américains vivant en France. Merci, Benoît Mourachel, président d'Acer Action Sécurité et éthique républicaine et auteur de « Quelles frontières pour les armes ?» C'est aux éditions Pédone. Merci également à Fabrice Viollet et Florence Ponce qui m'ont aidé à préparer cette édition. Le débat du jour revient lundi, ce sera avec Anne Souhaitemont. Pour l'heure, dans quelques instants, c'est le retour de l'actualité internationale sur RFI.